France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. L'assassinat qui déchire l'Amérique. Charlie Kirk, proche de Donald Trump, relais auprès des jeunes, tué en pleine réunion publique la nuit dernière. Le camp trumpiste accuse la gauche américaine. Son portrait dans un instant et les répercussions pour une démocratie américaine à nouveau ensanglantée. Ce sera avec notre invité, l'historien spécialiste des États-Unis, Corentin Célin. À suivre encore l'enquête sur la mort d'Agathe Hilleré, la joggeuse retrouvée dans la Vienne au printemps. Trois hommes interpellés, l'un d'eux placé en garde à vue. Interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, recommandation de la commission d'enquête parlementaire sur TikTok, mais c'est toujours la mise en œuvre qui pose problème. Et puis cette décision de la Cour de cassation qui chamboule les patrons. Bonjour Marine Clet.
Bonjour à tous.
Un salarié qui tombe malade pendant ses vacances a le droit de voir son congé payé reporté.
Mais alors que 70 000 entreprises sont menacées de fermeture l'année prochaine, cette possibilité n'est pas du tout au goût de la CPAM. La première organisation patronale y voit d'ailleurs la porte ouverte à tous les abus, vous l'entendrez.
A tout de suite, à partir de 13h30, Bruno Retailleau, vu par la journaliste Nathalie Chuc, elle publie Le Cardinal, première biographie du ministre de l'Intérieur, dans la lumière, après avoir été dans l'ombre longtemps de Philippe de Villiers et de François Fillon. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h45, notre feuilleton dans le plus grand musée de la mine de France. Nous sommes à Le Ward dans le Nord. 13h50, c'est la France. Quand les grands chefs font de la politique, ce sera avec Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. La comédienne Victoria Monfort demande Angelis du groupe ABBA à Frédéric Pommier.
J'ai appris à la jouer à la guitare et à la chanter pendant le confinement, alors que j'avais jamais fait de guitare. Une petite lubie comme chacun en a eu pendant le Covid. Et les mots, à ce moment-là, m'ont beaucoup parlé.
Et dans une vingtaine de minutes, les sorties cinéma de la semaine, ce sera avec Alexis Demeyer. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Charlie Kirk, son nom ne vous dit peut-être rien, mais l'assassinat la nuit dernière aux États-Unis de cet influenceur politique, 31 ans, alors qu'il participait à une réunion publique sur le campus d'une université de l'Utah. Sa mort est un événement majeur dans la vie politique américaine, parce qu'il était l'un des proches du président américain, très populaire auprès de la jeunesse, mais aussi parce que c'est un nouveau cap franchi dans la violence aux États-Unis, 4 ans après l'attaque du Capitole, 1 an après la tentative d'assassinat contre Donald Trump. À l'heure où l'on parle, la police américaine est toujours sur la trace du tueur. Avant d'accueillir notre invité, Corentin Célin, spécialiste des États-Unis, arrêtons-nous sur la personnalité de Kirk avec vous, Claude Guibal. Bonjour Claude.
Bonjour.
Qui était-il ?
Écoutez, Charlie Kirk, c'est en fait le visage du trumpisme pour la jeunesse américaine. L'entourage de Donald Trump repère dès la première campagne en 2016 ce jeune homme originaire de Chicago, nationaliste chrétien pour la peine de mort, pour le port d'armes, le mariage, obsédé vraiment par le déclassement de l'homme blanc, contre l'avortement qu'il compare à l'Holocauste. À 18 ans, il a déjà créé son propre mouvement Turning Point qui compte aujourd'hui des dizaines de milliers de membres. Charlie Kirk, c'est surtout une méthode, un média global à lui tout seul, podcast, réseaux sociaux et présence sur le terrain lors de redoutables débats dans les campus, comme ici, face à une étudiante pro-IVG.
On tombe pas enceinte comme ça, c'est pas comme si t'attrapes le Covid ou la grippe. Assume la responsabilité de tes orgasmes et arrête d'éliminer les êtres plus petits que toi. Si tu veux avoir des coïts, si tu veux t'engager dans une action qui peut te faire avoir un enfant, tu pourrais bien te retrouver avec un bébé. Et tu sais quoi? T'as pas besoin d'avoir des relations sexuelles avant le mariage.
Alors, ces échanges, ils sont ensuite diffusés sur les réseaux sociaux où ils deviennent viraux.
Qu'est-ce qui a fait basculer la jeunesse américaine, Claude Guibal? On dit que Charlie Kirk a joué un rôle prépondérant pour ramener cette jeunesse vers Donald Trump. Est-ce que c'est vrai?
Alors en tout cas, ce qu'on est sûr, c'est qu'il a largement contribué à déringardiser l'image des conservateurs en adoptant les codes de la jeunesse, leurs outils, les réseaux sociaux, avec ses presque 7 millions d'abonnés sur Instagram, 4 millions sur YouTube, des millions encore sur X, TikTok. Et c'est notamment cette conquête de l'électorat jeune qui a contribué à l'élection de Donald Trump, une campagne pendant laquelle Charlie Kirk a quand même réussi à récolter plus de 100 millions de dollars en faveur de son candidat.
Merci Claude Guibal. Bonjour Corentin Célin.
Bonjour.
Professeur agrégé d'histoire, spécialiste des États-Unis. Merci d'être avec nous. Il y a une image peut-être pour comprendre l'importance de ce personnage, que c'est vrai, on connaissait peu nous en France. Cette image, c'est celle de ces drapeaux en berne. Décision de Donald Trump la nuit dernière aux États-Unis. Ça dit beaucoup de la place qu'avait pris Kirk dans le dispositif Trump.
Oui, absolument. Il faut vraiment insister sur le fait que, par exemple, son organisation Turning Point avait été chargée par la campagne Trump de réaliser des opérations de porte-à-porte dans les États clés durant l'élection 2024 et en mobilisant donc ces jeunes convaincus, comme le rappelait Claude Guibal, par les prestations sur les réseaux sociaux de Charlie Kirk. Et donc, concrètement, ils avaient vraiment assuré dans les dernières semaines de l'élection, dans ces états décisif où ça s'est joué finalement à pas tant de voix que ça, cette mobilisation des électeurs, ces opérations de porte-à-porte, et donc il avait eu un rôle très important. Et par la suite, on sait qu'il était devenu assez proche de Donald Trump Jr., le fils du président, mais par ailleurs, il était souvent reçu à la Maison-Blanche et il exerçait, comme d'autres influenceurs nationalistes et de droite radicale, une sorte de fonction de vigie à la Maison-Blanche où il surveillait si les nominations étaient conformes à la radicalité de ses opinions.
Et sinon, il n'hésitait pas à dénoncer.
Oui, voilà, il y a vraiment ce rôle de vérification de la pureté idéologique, ouais. Et ce qui montre bien le rôle qu'il avait acquis, mais vraiment dans le premier cercle Trump. Il faut dire aussi, et ça c'est très important, qu'il incarnait par sa personnalité, par ses idées, donc vraiment d'une radicalité très forte à droite, nationaliste chrétien, Claude Guibal l'a dit, mais aussi par sa personnalité, non diplômé d'université. Donc à peine juste diplômé de lycée et il en tirait une grande gloire parce qu'aujourd'hui il allait dans les universités implanter, mener ce que lui-même considérait comme une guerre culturelle pour reconquérir les esprits reconquérir les esprits par rapport à ce qui était pour lui l'ennemi, hein, il le disait à longueur de podcasts et d'interventions, la gauche progressiste dite woke, et vraiment il était très fier de mener ce combat, lui qui n'était pas diplômé d'université.
Et c'est dans une université, dans l'Utah, qu'il a été tué la nuit dernière. Et depuis l'annonce de sa mort, Corentin Célin, il y a un déchaînement de violence verbale aux États-Unis. La gauche est le parti du meurtre, a écrit la nuit dernière le milliardaire Elon Musk, qui est un partisan, on le sait, de Donald Trump. Je rappelle qu'à cette heure, on ne sait rien ni du profil du tireur, ni de ses motivations. On a franchi un cap, là.
Alors, on ne peut pas encore répondre à cette question, mais la question se pose. Et le simple fait que la question se pose est extrêmement inquiétant. C'est-à-dire que l'année dernière, la tentative d'assassinat contre Trump avait été, j'allais dire, réglée dans les urnes. Pour finir, il y avait eu justement une forme de médiation démocratique. Mais depuis l'élection de Trump, on voit bien que le pays s'est encore plus tendu, encore plus... j'allais dire divisé en deux camps irréconciliables, avec une politique de Donald Trump aux tendances autoritaires qu'on a assez bien décrit. Et évidemment, beaucoup craignent que Donald Trump et certains de ses partisans, qui ne s'en cachent pas, récupèrent l'assassinat de Charlie Kirk pour mener des actions contre les oppositions. On a vu déjà certains élus réclamer, non seulement désigner la gauche radicale, alors que pour l'instant, hein, on ne sait rien des motivations du tireur, mais on a déjà vu certains élus réclamer des actions contre cette gauche radicale qui serait responsable de toutes les violences politiques. Alors que, il faut le rappeler, cette violence politique est en nette hausse effectivement depuis 2018 et elle a malheureusement touché les deux camps. Elle a touché des républicains, des conservateurs. Elle a touché aussi des démocrates. Donc il y a là une récupération politique, mais qui montre justement que le degré de non-réconciliation possible entre les deux camps.
Merci Corentin Célin d'avoir été en direct avec nous dans ce 13-14 après la mort donc de Charlie Kirk aux États-Unis la nuit dernière. Professeur agrégé d'histoire Corentin Célin, spécialiste des États-Unis. J'en viens maintenant à l'une des informations de la matinée et qui concerne la mort au printemps dernier dans le département de la Vienne d'Agathe Hilleré, cette joggeuse de 28 ans. Son corps retrouvé le 4 mai dernier, presque un mois après sa disparition. Depuis, les enquêteurs sont persuadés persuadé qu'elle a été tuée, mais sans parvenir à élucider l'affaire. Et ces dernières heures, ces enquêteurs ont interpellé 3 hommes. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
L'un d'eux a été placé en garde à vue.
Ah oui, c'est la première fois qu'un suspect est placé en garde à vue dans le cadre de cette enquête sur la mort d'Agathe Hilleret. Et ce, après des mois d'enquête, d'expertise ADN par les gendarmes de la section de recherche de Poitiers. Les enquêteurs avaient ciblé 3 profils avec des antécédents judiciaires concernant des agressions sexuelles. 2 autres hommes qui ont également été interpellés ce matin avec des perquisitions de leur domicile à chaque fois, mais ils n'ont ensuite été entendus qu'en audition libre. Le suspect placé en garde à vue a donc fait l'objet de surveillance depuis plusieurs semaines. Le temps de la garde à vue doit permettre de fouiller son téléphone portable par exemple et son emploi du temps le jour de la mort de la joggeuse le 10 avril dernier. En juillet dernier, la piste criminelle effectivement avait été privilégiée après l'analyse de cette montre connectée de la victime. Les experts de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale à Pontoise ont pu établir que le corps avait été forcément déplacé, que sa fréquence cardiaque était montée d'un seul coup, signe d'une possible agression, même si le procureur de l'époque n'avait pas évoqué de traces de violence physique.
Emmanuel Leclerc pour ces informations. Hier soir à Lyon, un homme en fauteuil roulant a été tué à l'entrée de son immeuble, frappé au cou avec une arme blanche. C'est un Irakien de 45 ans qui était en train de faire un live sur les réseaux sociaux quand il a été touché. Pas de piste privilégiée à ce stade par les enquêteurs. Le Qatar est en deuil aujourd'hui, 2 jours après les frappes israéliennes sur son sol, frappes qui ont fait 6 morts, dont des responsables du Hamas. Les funérailles vont se dérouler aujourd'hui à Doha. Marie-Pierre Véraud, vous êtes sur place pour Inter. Marie-Pierre, les Qataris ne décolèrent pas. Dans un entretien accordé à la chaîne américaine CNN, leur Premier ministre demande que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou soit traduit en justice.
Oui, ce sont les menaces proférées par le Premier ministre israélien qui suscitent son indignation. Benjamin Netanyahou somme le Qatar d'expulser ou de traduire en justice les dirigeants du Hamas, faute de quoi c'est lui qui s'en chargera.
Nous n'acceptons pas une telle menace venant d'un tel personnage, Netanyahou. Il demande qu'on les traduise en justice, mais c'est lui qui doit être jugé. C'est lui qui est poursuivi par la Cour pénale internationale. Il donne des leçons de droit au monde, mais c'est lui qui viole toutes les lois, le droit international. Il affame la population de Gaza. Il se comporte comme un voyou dans toute la région. C'est quoi la prochaine étape ?
Et c'est bien la question qui agite au-delà du Qatar les dirigeants du Golfe qui se pressent ici pour exprimer leur condamnation. Ils réfléchissent à une action collective régionale, une riposte judiciaire peut-être.
Ce qui est tout de même particulier, Marie-Pierre, c'est qu'Israël et le Qatar sont tous les deux alliés des Américains, même si les Qataris s'interrogent maintenant sur la solidité de cette alliance.
Oui, c'est un effet collatéral des bombardements israéliens. Les Qataris et au-delà les autres dirigeants de la région redoutent que le Premier ministre israélien, qui a promis de remodeler le visage du Proche-Orient, ne s'attaque aussi à celui du Golfe. Et ils se demandent s'ils peuvent toujours compter, pour leur sécurité, sur le parapluie américain. Vous savez, les liens stratégiques, militaires, économiques du Qatar ou de l'Arabie Saoudite, par exemple, sont très profonds avec les États-Unis. Mais aujourd'hui, tous ces pays du Golfe se trouvent face à un défi sécuritaire, une menace venue d'Israël qu'ils estiment devoir être prêts à affronter seuls.
Marie-Pierre Véraud, envoyée spéciale de France Inter au Qatar. Une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui à la demande de la Pologne. Le pays accuse la Russie de l'intrusion de drones présumés russes sur son territoire. C'était dans la nuit de mardi à mercredi. Une situation que suit bien sûr le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu. Toujours ministre des armées démissionnaire, le temps qu'il compose son gouvernement. Hier midi, lors de la passation de pouvoir avec François Bayrou, il a promis une nouvelle méthode de travail, étriant au passage celle de son prédécesseur. Et bien, illustration ce matin, Sébastien Lecornu recevait à Matignon les leaders du socle commun, ce que le maire de Pau n'avait quasiment jamais fait, Julien Nenni.
Oui, en tout cas jamais sous ce format réservé aux chefs de parti, mais ça doit être parce qu'ils étaient en vacances. Griffe avec ironie un cadre de ce socle commun, pas fâché que François Bayrou ait quitté Matignon. Autour de la table de Sébastien Lecornu, dès 8h, on retrouvait Gabriel Attal, Édouard Philippe, Bruno Retailleau, Marc Fesneau pour le Modem et Hervé Marseille pour l'UDI. Peu de choses ont filtré de ce rendez-vous inédit et pour cause, rien ne doit fuiter de ces échanges consignes du nouveau Premier ministre. Un participant qualifie simplement de franche et sans langue de bois ces premières discussions qui ont porté sur la méthode. Autrement dit, comment enfin parler d'une même voix entre alliés au moment où les négociations sur le budget vont s'engager avant la fin de la semaine avec la gauche? Le premier élément de réponse est sémantique. Abandonner dès maintenant dans le socle commun l'expression « ligne rouge » qui complique d'emblée l'idée même de compromis. Message adressé en particulier à Bruno Retailleau, bien conscient que s'il souhaite rester au ministère de l'Intérieur, il a tout intérêt à ne pas se montrer trop inflexible dans les négociations à venir.
Alors, vous nous avez parlé, Julien, de Bruno Retailleau, d'Edouard Philippe, de Sébastien Lecornu. Il y a un homme qui les connaît tous et qui est vraiment l'intermédiaire entre ces figures de la droite et Emmanuel Macron. C'est Thierry Solaire, ancien député, ancien conseiller du président de la République, plusieurs fois mis en examen. Le grand public le connaît peu. Mais son influence mérite qu'on s'arrête une minute sur son rôle. Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
Car c'est l'un des plus proches amis du nouveau Premier ministre.
Et il était hier présent, bien sûr, à la passation de pouvoir. Dans la cour de Matignon, Thierry Solaire a d'ailleurs fait ce qu'il fallait pour être vu. Posté juste à l'entrée, la première poignée de main du nouveau Premier ministre est pour lui. Pourquoi pas, après tout, le triomphe de son poulain, Sébastien Lecornu, est aussi le sien. Des années à faire sa campagne, à chanter ses vertus, habileté, loyauté, ambition modérée. Après 2027, il arrête, vous verrez, et a désingué ses concurrents potentiels pour Matignon. Entre eux, c'est l'histoire d'un très long compagnonnage, la grande époque de l'amicale Bellota-Bellota avec Édouard Philippe, le ralliement à Emmanuel Macron ensemble en 2017... Thierry Solaire, lui, ancien député, devenu conseiller politique d'Emmanuel Macron, officiel puis officieux. Depuis 2022, il se consacre à des missions plus souterraines, comme l'organisation de dîners secrets chez lui, entre Marine Le Pen et son ami Sébastien Lecornu. L'affaire a choqué, y compris en Macronie. Plus ou moins en cours à l'Élysée, au gré des saisons et de ses ennuis judiciaires, mais avec le talent d'être là quand il se passe quelque chose d'important. Par exemple, à Matignon, hier, premières heures du mandat de Sébastien Lecornu, il était là, dans son bureau.
Éclairage signé Marie Mollet.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Le dire est une chose, le faire en est une autre. En juin dernier, le président de la République, Emmanuel Macron, annonce qu'il veut interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans. Ce matin, c'est la commission d'enquête parlementaire consacrée au réseau social TikTok qui arrive à la même conclusion avec en prime l'instauration d'un couvre-feu numérique pour les 15-18 ans. Autrement dit, pas de réseaux sociaux pour eux. Après 22 heures, le député socialiste Arthur Delaporte est le président de cette commission.
TikTok est dangereux. Des sujets sont particulièrement ressortis. Moi, il y en a un qui m'a marqué, la diffusion des idéologies extrémistes et en particulier du masculinisme. Ça, c'est, je pense, l'une des choses que cette commission d'enquête aura pu mettre en avant. TikTok ne peut pas ne pas savoir qu'ils mettent en danger des dizaines de millions de jeunes. Alors ici, nous, on est en France. Si on considère qu'il y a une mise en danger de la vie d'autrui, eh bien, c'est quelque chose qui est de l'ordre du droit pénal. Moi, je considère, à l'issue de cette commission, qu'il y a des sujets au moins de nature pénale, ou tout du moins qui méritent investigation pour pouvoir, s'il n'y a pas une forme de complicité active de la plateforme, qui savait qu'il y avait des troubles liés aux conséquences de l'algorithme et qui n'a pas agi de manière à les empêcher de façon absolue.
Le député Arthur Delaporte qui annonce avoir saisi la justice pour mise en danger de la vie des utilisateurs de l'application. La plateforme TikTok qui réagit il y a quelques minutes auprès de nos confrères de France Info. Nous sommes en désaccord et qui donc conteste ce rapport. Bonjour Laurie Licarive.
Bonjour.
En fin d'année dernière, un collectif de 7 familles a saisi la justice. Elles accusent TikTok d'avoir contribué au suicide de 2 de leurs enfants. Et vous vous êtes entretenu ce matin avec l'une d'elles.
Oui, sa fille Emma s'est pendue à la patère de la salle de bain. C'était en 2021 et ça n'est que trop tard que Christina a compris ce qui défilait sur l'écran de l'adolescente. Des vidéos aux musiques évoquant la mort, voire de véritables tutoriels sur le suicide.
La façon dont elle est passée à l'acte, c'est pas quelque chose que vous pouvez inventer. C'est comme si on donnait le moyen aux enfants et la notice pour passer à l'acte et justifier que c'est la meilleure des choses à faire.
Alors aujourd'hui, Christina salue les préconisations de la commission TikTok, même si, dit-elle, l'idée d'interdire les réseaux sociaux aux ados aurait pu être poussée un tout petit peu plus loin.
J'aurais aimé que ce soit 18 ans, parce que je pense qu'à 15 ans, on n'a certainement pas fini, on ne fait que commencer à devenir adulte, on va dire. C'est la période la plus sensible pour moi. Mais je pense que c'est une première étape qui est déjà vraiment importante.
Et elle espère que le rapport aidera à une prise de conscience. Elle espère, je disais, que le rapport aidera à une prise de conscience de toute la société.
La question centrale, Laurélie, c'est celle de la mise en œuvre de cette mesure. Aujourd'hui, TikTok, par exemple, est interdit, comme les autres réseaux sociaux, au moins de 13 ans. Est-ce qu'on sait si c'est respecté ?
Oui, on le sait. En fait, ça figure dans les conditions générales d'utilisation et on sait que ça n'est pas respecté, puisqu'il suffit en fait de renseigner votre date de naissance. C'est du pur déclaratif. Et aujourd'hui, on estime que les deux tiers des élèves de primaire sont inscrits sur un réseau social. Alors, il y a 2 ans, le Parlement a adopté un texte pour inscrire dans la loi l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, sauf qu'il se heurtait au droit européen et la loi n'a donc jamais été promulguée. Entre-temps, le droit européen a évolué, la commission TikTok veut donc croire qu'il y a une brèche dans laquelle s'engouffrer, mais ensuite, comment faire respecter cette interdiction ? L'UE travaille sur une application de vérification d'âge. Encore faut-il là que les plateformes acceptent de s'en servir et de ce côté-là, rien n'est gagné.
Encore une condition, merci Laurélie qui arrive. Autre fléau pour nos jeunes, la malbouffe avec l'explosion de l'obésité à travers le monde. C'est désormais la première forme de malnutrition chez les moins de 19 ans. Alors il existe pourtant quantité de programmes d'information pour les parents, des campagnes de pub, etc. Eh bien tout cela n'a aucun impact, nous apprend aujourd'hui une équipe internationale de chercheurs. Bonjour Sophie Becherel.
Bonjour.
Qui démontre qu'informer n'a aucune incidence sur l'indice de poids corporel.
En effet, alors qu'on évalue dans le monde à 37 millions le nombre d'enfants de moins de 5 ans obèses, cette étude nous dit que la sensibilisation de leurs parents dès la toute petite enfance n'a servi à rien. Il n'y a pas de différence sur le poids des enfants à 2 ans entre ceux dont les parents avaient suivi un programme de sensibilisation et les autres. Ces chercheurs qui publient leurs résultats dans The Lancet l'avouent sans embâge, ce constat est à la fois étonnant et décourageant. Car jusqu'ici, vous l'avez dit, les campagnes de santé publique estimait essentiel d'éduquer, souvent dès la grossesse, sur une alimentation saine, la nécessité d'avoir une activité physique, le rôle néfaste des écrans, l'importance d'un bon sommeil. De nombreux pays ont investi dans ces programmes d'éducation, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Suède, et donc pas de résultat. Pourquoi cet échec ? Peut-être, avancent ces chercheurs, parce que la première année de vie est stressante pour les parents qui n'arrivent pas tout seuls à mettre en œuvre les recommandations, ou plus simplement parce qu'ils manquent d'argent pour une nourriture de bonne qualité. Pour eux, si changer les comportements individuels ne suffit pas pour juguler cette épidémie d'obésité, il faut envisager d'autres mesures. Ces chercheurs suggèrent de lutter contre la pauvreté, de taxer les boissons sucrées, de financer des congés parentaux, de prendre en charge le coût des activités sportives ou encore d'augmenter le nombre d'espaces verts.
Sophie Becherel, les conséquences sanitaires de la canicule de l'été dernier, celle entre le 8 et le 19 août, il y a eu 5% de décès en plus, nous dit Santé publique France, 280 décès de plus que la normale et uniquement chez les personnes âgées de 75 ans et plus, nous dit l'agence sanitaire. Vos vacances viennent de débuter, vous vous cassez la jambe, vous voilà immobilisé, vacances gâchées. Eh bien, vous avez le droit désormais de demander un report de vos congés, à condition évidemment d'avoir un arrêt maladie prescrit par un médecin. La Cour de cassation a en effet rendu sa décision hier pour nous mettre en conformité avec le droit européen et elle distingue la période d'arrêt maladie, qui est faite pour se soigner, et les congés payés durant lesquels vous vous reposez. Marine Cléton, on vous retrouve. Réaction des représentants des patrons ce matin qui craignent la multiplication des faux arrêts maladie.
Alors, pas de chiffres précis, mais une tendance.
C'est qu'il y a des arrêts maladie non justifiés qui semblent en augmentation.
Et c'est bien ça ce qui inquiète Nicolas Daillot, membre du comité exécutif de la CPME, la première organisation patronale de France, craint donc ces dérives de salariés malveillants.
Quand on voit le dérapage actuel du nombre d'arrêts de travail, dont certains sont soupçonnés d'être non justifiés, je pense que ça n'est pas l'épaisseur du trait, mais que ça peut avoir un effet d'appel d'air en plus.
Alors l'assurance maladie est en pleine campagne contre ces abus qui lui ont coûté 42 millions d'euros l'année dernière. Outre la possibilité de triche, le dispositif lui-même n'est pas du goût des patrons. Cela va provoquer des cases en plus à gérer dans les plannings et des euros en moins dans les caisses selon Nicolas Daillot.
Et notamment dans les petites et toutes petites entreprises qui ont peu de salariés, qui ont une gestion millimétrée évidemment de leurs congés payés pour qu'il y ait une continuité du service au sein de l'entreprise. Il est évident que lorsqu'il va falloir repositionner des congés payés à un autre moment, ça risque de désorganiser l'entreprise, de faire attendre des clients, de faire perdre des marchés, de réduire le chiffre d'affaires et donc de fragiliser l'entreprise.
La CPME rappelle qu'elle s'attend à 70 000 défaillances d'entreprises l'année prochaine. C'est le pire timing, tranche l'organisation patronale, qui demande enfin au nouveau Premier ministre de défendre immédiatement concrètement les entreprises françaises face à cette réglementation européenne.
Marine Clette, le cinéma.
Moteur.
T'as de bons yeux, tu sais.
C'est tout joli, mes fesses.
Et les conseils cinéma du jeudi cette semaine. Bonjour Alexis de Meyer.
Bonjour Jérôme.
On commence par Sirat, road movie espagnol récompensé à Cannes en mai dernier.
Oui, ce film réalisé par le jeune Oliver Lachey fut l'un des grands chocs esthétiques de la compétition cannoise, repartant avec le prix du jury. Et difficile en effet de ne pas garder durablement en mémoire ce western apocalyptique dans le désert marocain, dopé à la techno-hardcore.
Es mi hija. Hace cinco meses que no sabemos nada de ella.
Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí.
Luis, interprété par Sergi Lopez, a dû quitter le confort de sa vie madrilène pour tenter de retrouver dans le monde itinérant des teufeurs sa fille dont il n'a plus de nouvelles depuis des mois. Cette longue errance dans les montagnes de l'Atlas va se transformer pour Luis et ses compagnons d'infortune en un chemin de croix aussi éprouvant pour les personnages que pour les spectateurs. Avec Sirat, il faut en effet avoir le cœur bien accroché, mais le jeu en vaut la chandelle.
Vous nous conseillez également une comédie romantique bien grinçante, ça s'appelle Libre-échange.
I've been unfaithful.
Just one time. Two. Please don't make me count three.
Ce film, Jérôme, est tout simplement l'une des belles surprises de cette rentrée ciné, car il nous donne enfin des nouvelles rassurantes de la comédie Made in USA, qui n'était pas loin de l'état de mort clinique. Devant et derrière la caméra, Michelangelo Covino explose tous les tabous pour évoquer la fidélité, le mariage libre, le polyamour, bref, toutes les questions qui infusent les relations amoureuses des années 2020. C'est brillamment écrit, formidablement interprété et mis en scène avec classe et précision. Libre-échange a fait forte impression lors de sa présentation en ouverture du festival de Deauville vendredi dernier. On lui souhaite le même accueil chaleureux partout en France cette semaine.
La comédie Une place pour Pierrot a également retenu votre attention.
Le Pierrot du titre est un homme autiste de 45 ans, interprété par Grégory Gadebois. Quand sa sœur, une avocate incarnée par Marie Gillin, découvre les mauvais traitements dont Pierrot est victime dans son foyer médicalisé, elle décide de s'en occuper elle-même chez elle.
Non, Pierrot.
Il est resté tout nu tout l'après-midi.
Ton zizi.
Hein ? Je lui parle pas.
Maman !
Elle est très énervée, ma sœur Camille.
Pour son premier long métrage de fiction, la réalisatrice Hélène Médigue s'est inspirée de sa propre histoire et ça a dû évidemment beaucoup influencer son approche qui se révèle d'une douceur et d'une lucidité remarquables. Le scénario est certes un peu trop programmatique avec son inventaire de situations vécues par une personne autiste et son entourage, mais l'ensemble est d'une grande honnêteté et mérite vraiment le détour.
Quoi d'autre à l'affiche, Alexis ?
Connemara, l'adaptation par Alex Lutz du roman à succès de Nicolas Mathieu, Downton Abbey le grand final qui devrait donc refermer cette saga sur la noblesse britannique entamée en 2010 et Shaun le Mouton, la ferme en folie, troisième volet sur grand écran des aventures de Lovin en pâte à modeler créé par Nick Park, le papa de Wallace et Gromit.
Merci Alexis de Meyer, je vous dis à la semaine prochaine. Qui a dit que les jeux vidéo étaient réservés aux moins de 60 ans? Les seniors, eux aussi, s'y mettent. Il y a de plus en plus de tournois et de consoles dans les EHPAD et dans les résidences pour personnes âgées. Tournois organisés en ce moment par le groupe Domitis dans 4 de ces résidence sur un jeu qui peut peut-être surprendre, c'est le jeu de combat virtuel Street Fighter. Et Mathis Caron a constaté dans une résidence de Lille que les seniors se lançaient à fond dans l'aventure.
Après quelques jours d'entraînement intensif, il est temps d'en découdre officiellement.
Allez, Marie-Thérèse.
À 75 ans, Gertrude découvre avec beaucoup d'intérêt les jeux vidéo.
On aime bien, moi, c'est marrant, c'est rigolo. Ouais. Ça rajeunit. Mais je vois que ceux qui font tous les boutons, ils gagnent plus vite.
Et elle n'a pas totalement tort. Janine, 91 ans, enchaîne les victoires en écrasant au hasard tous les boutons de la manette.
C'est fatigant quand même.
Pourquoi ?
On s'énerve. On veut gagner, si vous voulez.
Une vraie compétitrice qui se voit déjà à Nice en octobre pour disputer la grande finale du tournoi.
Je suis curieuse.
Pour aller voir les beaux jeunes hommes sur la plage, et puis comme ça vous mettrez votre beau bikini.
Oh bah alors là, il n'y a plus rien à mettre dedans.
Même les résidents spectateurs comme Hélène se passionnent pour ces combats.
Moi j'aime bien les matchs comme ça, ça me rappelle mon jeune temps, quoi. J'allais au catch avec mon mari.
Tous profitent donc de l'activité qui a de nombreux bienfaits sur les résidents, explique Marie-Sophie, animatrice de l'établissement.
On travaille forcément un petit peu de motricité fine, la dextérité, etc. Donc au niveau des articulations, ça peut faire que du bien. Et après, il y a aussi tout le bien-être psychologique et moral que ça peut apporter. Voilà, on passe un bon moment, on libère plein de super endorphines et puis on se sent super bien, quoi.
Et la pratique des jeux vidéo a beaucoup d'autres effets bénéfiques, notamment sur la mémoire des seniors.
Moi, c'est comme ça que je joue, j'écrase toutes les touches au hasard. Reportage ici Nord, 13h29 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo qui ne devra rien au hasard, elle, on l'espère en tout cas, de Sébastien Léas, puis à 13h30, le parcours de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur démissionnaire. C'est avec la journaliste Nathalie Schuck qui publie Le Cardinal. On parlera également de ses relations avec le nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu. 01 45 24 7000 pour être avec nous. 13h45, notre feuilleton, un musée de la mine. À l'heure de la transition écologique, c'est à Le Ward, dans le Nord. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour à tous.
Marie-Luce, quand les chefs font de la politique...
Oui, on va voir que ce n'est pas si nouveau, Jérôme, mais en revanche, leur voix porte plus fort parce que les cuisiniers sont devenus des stars des médias et des réseaux sociaux.
Et avec vous, Frédéric, une comédienne.
Victoria Montfort, dont on connaît bien le père, Nelson Montfort, et avec elle, nous parlerons d'un groupe que lui a justement fait découvrir son père. Ce groupe, c'est ABBA.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Ça, c'est le bruit d'une vie un peu trop animée. Stop ! Booste ton mood dans un club Basic Fit à proximité. Profite de notre offre sur basic-fit.fr. Basic Fit, go for it. Go for it est égal lancez-vous. Mood est égal humeur.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque ? Non ? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel ? Prise de poids rapide, pieds et chevilles gonflés, fatigue excessive. Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie.
France Inter, partenaire du Festival du Monde. Le journal Le Monde fait son festival et vous ouvre ses portes. 4 jours de débats avec des invités inspirants, des rencontres avec la rédaction, des spectacles, des ateliers, des quiz géants, de la gastronomie. Un rendez-vous pour imaginer les mondes de demain. En accès libre ou sur réservation. Le Festival du Monde, une expérience à vivre du 18 au 21 septembre à Paris, avec France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso fabriquées en France et ses doses en papier naturel. À retrouver sur malongo.com.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Beaucoup de nuages cet après-midi avec des averses également.
Oui, hormis sur les régions méditerranéennes et près des Alpes qui bénéficieront d'un temps bien ensoleillé, le ciel sera souvent chargé cet après-midi. Alors quelques éclaircies arriveront tout de même à se dessiner, mais il faudra aussi composer avec des averses, en particulier entre la Bretagne, la Normandie, le bassin parisien et la Bourgogne. L'instabilité sera encore plus marquée au nord de la Seine, avec des risques d'orages de la Seine-Maritime aux Hauts-de-France et aux Ardennes. Le temps sera tout de même plus sec des Pyrénées à l'Est-Auvergne, au Lyonnais et à l'Alsace. En revanche, la couche nuageuse sera bien compacte sur la Nouvelle-Aquitaine avec des pluies, des Charentes et de la Gironde au Limousin. Les températures maximales de cet après-midi sont en dessous des normales de saison avec 18 à 25 degrés, 20 degrés pour Paris, 22 degrés à Bordeaux ou encore 24 degrés à Toulouse et à Lyon. Les températures seront quand même plus douces sous le soleil méditerranéen. 27 degrés de Perpignan à Nice et 28 degrés à Ajaccio.
Sébastien Léas, Météo France.
France Inter. De 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour Nathalie Schuck.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste pour l'hebdomadaire Le Point et vous signez Le Cardinal, les combats et ambitions de Bruno Retailleau. C'est aux éditions Robert Laffont. C'est une biographie du ministre de l'Intérieur démissionnaire, c'est comme ça qu'il faut dire,
absolument,
depuis lundi et la chute du gouvernement de François Bayrou. Parcours de ses débuts, aux côtés de Philippe de Villiers, en Vendée, son département natal, jusqu'à son arrivée au gouvernement. C'était il y a presque un an. Depuis, les Français ont appris à connaître Bruno Retailleau. Le connaissent-ils vraiment? On va voir ça avec vous dans un instant. 01 45 24 7000 pour vos questions. Vous passez également via l'application Radio France. Nathalie Schuch, je voudrais qu'on s'arrête sur le titre. Le cardinal, c'est un homme d'église, la religion, très présente peut-être pour Bruno Retailleau dans son parcours, mais c'est aussi un homme de pouvoir. Qu'est-ce qui est le plus important chez lui? Est-ce que c'est la quête du pouvoir ou est-ce que c'est la place de la religion?
Mais c'est les deux, c'est pour ça qu'on a choisi ce titre. Alors, à la base, ce titre, pour l'expliquer un peu, c'est un surnom qui lui était donné par l'ancien maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, qui était croyant comme lui. Et ils avaient
et donc, il était proche.
Ils n'étaient pas tellement proches, mais c'est surtout qu'ils avaient une passion commune pour les santons de Provence. Mmh. Et en fait, Gaudin s'amusait à offrir des santons à Retailleau, qui en avait toute une collection dans son bureau à l'époque où il était président du groupe Les Républicains au Sénat. Après, évidemment que ça renvoie à la dimension de pouvoir, parce que peu de gens connaissent vraiment dans l'intimité Bruno Retailleau, et c'est quelqu'un qui y pense depuis très longtemps au pouvoir. Un de ses proches m'a dit, Bruno Retailleau, c'est 30 ans d'ambition. C'est-à-dire, il a déjà pensé à la présidentielle en 2022. Donc tout ça vient de loin, et évidemment, c'est la foi, bien entendu.
La foi, elle a une grande place dans sa vie.
Oui, et c'est, j'en ai parlé avec lui, il m'a dit, mais je ne suis pas un intégriste, on me croque souvent en traditionnaliste, j'ai une foi paroissiale, c'est le terme qu'il utilise. Il dit, oui, moi je vais dans ma paroisse, je vais dans mon église à côté de chez moi, le dimanche, mais je ne suis pas pour autant un prosélyte.
On reviendra sur ses convictions aussi, et parce qu'elles lui ont été souvent reprochées, notamment à droite, et on lui a souvent dit que peut-être...
Et par Nicolas Sarkozy, très récemment.
Et par Nicolas Sarkozy, et qu'elle l'handicaperait dans sa course au pouvoir, justement. Mais vous nous dites que c'est 30 ans d'ambition. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est qu'il a été élu très jeune, 28 ans, je crois, pour sa première élection. Ça fait un parallèle avec Sébastien Lecornu,
c'est juste.
D'ailleurs. Et il devient ministre à 63 ans. Et là, vous signez sa première biographie. Il a 64 ans.
C'est l'histoire d'une résurrection politique, en fait. C'est quelqu'un qui aurait aimé jouer les premiers rôles beaucoup plus tôt. Enfin, il était fléché pour être au premier rôle dans la campagne de François Fillon. Si l'ancien Premier ministre avait gagné la présidentielle, on sait ce qui s'est passé, il serait devenu son Premier ministre. François Fillon me l'a dit, je l'aurais mis à Matignon, c'est ce que je voulais faire. Peut-être à l'intérieur, mais plutôt à Matignon. Donc, il espérait jouer les premiers rôles beaucoup plus tôt dans sa carrière. Et il aurait pu devenir ministre 15 ans plus tôt. 2009-2010, Nicolas Sarkozy est à l'Élysée et François Fillon essaye de pousser c'est le nom de son ami Bruno Retailleau pour rentrer au gouvernement. Philippe de Villiers à l'époque met un veto. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a vraiment ramé, passez-moi l'expression, pour réussir à accéder enfin à la lumière.
Alors, Philippe de Villiers, vous avez prononcé son nom. Là, cet épisode intervient après la rupture entre les deux hommes. Mais la rencontre avec Philippe de Villiers, elle bouleverse, elle change le cours de la vie de Bruno Retailleau.
Mais c'est un changement total. J'en ai parlé avec lui. Il n'a pas d'amertume, Bruno Retailleau. Il dit, moi, je ne suis pas quelqu'un qui cuit dans son jus. C'est l'expression qu'il utilise. Pourtant, il a quand même souffert de cette aventure-là. Mais effectivement, c'est lui qui lui met le pied à l'étrier. À l'époque, Bruno Retailleau, c'est un gamin qui n'est pas très bon... à l'école, qui force pas trop son talent, hein, contrairement à son image de premier de la classe. Et puis c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'équitation, qui est très doué. Et son père lui dit, bah tiens, il y a un jeune énarque qui est en train de faire sortir un spectacle. Il veut monter un son et lumière, tu devrais y aller. Il se rencontre comme ça. Au départ, il devient un cavalier. Et
il se retrouve au
Puy du Fou. Il se retrouve un peu à faire,
Parc à thème qui exalte l'histoire de la
Exactement.
Vendée, pour ceux qui ne le connaissent pas.
Et il va en monter tous les échelons. Et très vite, De Villiers s'aperçoit qu'en fait, c'est un énorme bosseur. Il va s'appuyer sur lui jusqu'à en faire son grand vizir, son quasi numéro 2, jusqu'au jour où en fait les ambitions de Bruno Retailleau vont commencer à devenir un peu gênantes, sa créature va lui échapper, et là ça va se compliquer entre les deux.
Juste avant d'arriver à la rupture, il apprend énormément de choses au Puy du Fou. Les apparitions médias, par exemple, tout cela, il l'apprend aussi...
Ça a été un centre de formation...
Ça a été une école pour lui.
Bah, c'était un centre de formation totalement hors norme. Olivier Marleix, feu le député qui a mis fin à ses jours, avait eu cette expression que je cite dans le livre, il dit « Bruno Retailleau, il est né dans un cirque ». Donc ça en fait un objet politique non identifié total. C'est vrai qu'à l'époque, il a appris à diriger des bénévoles.
La mise en scène.
Il a appris la mise en scène. C'est quelqu'un qui a tourné, on a du mal à l'imaginer aujourd'hui, mais Bruno Retailleau, il a tourné des clips à l'époque, un clip avec Didier Barbelivien sur cette chanson, Le Puy du Fou. C'est quelqu'un qui a dirigé une école de communication, donc il sait parfaitement comment se poser devant une caméra, il sait comment parler à un micro. Donc en fait, c'est vraiment un objet non identifié dans le paysage politique, mais ça lui a donné beaucoup de force. Et d'ailleurs, il le dit, j'ai pas de regrets, ce que Philippe de Villiers m'a permis de faire aujourd'hui, j'aurais pas pu le faire sans lui.
Pourquoi il y a cette rupture en 2009? Il est débarqué du Puy du Fou par Philippe de Villiers, Bruno Retailleau.
Un 23 décembre, donc juste avant Noël, c'est hyper violent. Et à l'époque, toute sa vie, Bruno Retailleau tourne autour du Puy du Fou. C'est-à-dire son beau-frère bosse au Puy du Fou, son frère bosse au Puy du Fou, tout son cercle amical y est. Donc pour lui, c'est sa vie personnelle, amicale, professionnelle, tout s'effondre. Et ça a été très très dur à vivre. Et pourquoi il y a cette rupture? Vraisemblablement parce que Philippe de Villiers a senti que son grand vizir, sa créature, avait des envies d'ailleurs, commençait un peu à flirter avec François Fillon à la région des Pays de la Loire, avait des envies d'accéder au gouvernement et ne l'a vraisemblablement pas supporté. Après, il faudrait poser la question à de Villiers, j'ai essayé de le joindre à multiples reprises, il n'a pas souhaité parler, ce que je respecte mais ce que je regrette malgré tout.
Il y a eu cette mise en scène, ces retrouvailles qui ont été filmées à l'occasion du Vendée Globe.
C'était il y a un an à peu près.
Il y a un an. C'était sincère? Ils se reparlent vraiment ou c'était,
c'est ce qu'on appelle
c'était
vraiment
un piège dans lequel est tombé Bruno Retailleau?
Rencontre Potemkin. C'était organisé entre les deux pour des raisons bien comprises. On n'imagine pas du tout le ministre de l'Intérieur qui vient d'être nommé en train de se disputer dans les médias avec son ancien mentor. Ça faisait désordre. Donc il fallait organiser une réconciliation. Et ça ne s'est pas passé exactement comme les équipes de Retailleau l'auraient souhaité. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image. On voit Philippe de Villiers qui tient Bruno Retailleau contre lui, contre son épaule de façon presque paternelle, comme si c'était un petit garçon. Et ça, c'était infantilisant pour le ministre de l'Intérieur, donc il n'était pas content du tout. Depuis, il n'y a plus de contact, il n'y a pas eu de coup de fil, rien du tout. Et je raconte même dans le livre que pendant la bataille interne pour les Républicains au printemps, il est arrivé qu'il y ait quelques coups de fil entre Laurent Wauquiez et Philippe de Villiers.
D'accord, donc il essaye toujours de lui mettre des bâtons dans les roues, en quelque sorte.
Posez-lui la question, mais il semblerait.
Il y a peut-être toujours, en tout cas il y a eu très longtemps, proximité idéologique entre Philippe de Villiers et Bruno Retailleau, le souverainisme, la défense des racines chrétiennes de la France, l'exaltation de la famille, tout ça, ça correspond à l'éducation de Bruno Retailleau, ça lui vient de ses racines.
Alors c'est plus complexe que ça, je rappelle dans le livre quand même quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'à l'époque où lui rejoint Philippe de Villiers, c'est pas le Villiers d'aujourd'hui, pas du tout. Souvenez-vous, en 1988, c'est-à-dire 1988, c'est la date à laquelle Bruno Retailleau est élu pour la première fois conseiller général en Vendée. C'est la date à laquelle Philippe de Villiers lui met le pied à l'étrier politique. À cette époque, de Villiers, il appelle à voter pour Raymond Barre, qui est donc le candidat de l'UDF. Il fait partie de la majorité RPR-UDF de l'époque, même s'il en est la frange la plus droitière. C'est seulement après la suite de sa carrière qu'il va riper tout doucement vers le souverainisme, un souverainisme beaucoup plus prononcé pour dire le moins. Donc c'est pas vraiment la culture de base de Retailleau. Retailleau, en fait, c'est une espèce d'alchimie entre une époque où la Vendée était effectivement nostalgique, peut-être d'une période un peu monarchiste, l'époque des guerres de Vendée, et en même temps la démocratie chrétienne. Donc c'est un alliage. Je raconte dans le livre à quel point c'est quelqu'un qui est double. Il est toujours, vous voyez, c'est quelqu'un qui a des convictions très solides, et qui en même temps a passé des années au Sénat, qui est le temple de la modération et du compromis. Et donc il a des convictions, mais il sait négocier, donc il n'est pas fermé.
Contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution, contre la PMA pour toutes, contre l'euthanasie, contre le mariage pour tous. Où est-ce qu'il en est de ses convictions?
Alors ça, c'est une question que je lui ai posée. En lui disant, est-ce que vous ne pensez pas que ça sera votre plafond de verre si vous vous présentez sur une présidentielle?
Parce qu'effectivement, là, il est minoritaire
j'ai recensé toutes ses prises de position, tous ses votes à l'époque où il était au Sénat. Vous avez oublié dans la liste le fait qu'il ait voté contre l'interdiction des thérapies de conversion. Donc c'est quand même des convictions pour le moins affirmées, on va dire.
Extrêmement conservatrices. Très minoritaires aujourd'hui.
Et pour le coup, il dit, de toute façon, si je venais à aspirer à de plus hautes fonctions, dit-il, ce n'est pas tranché dans sa tête, ça c'est une autre question, il dit, je dirais moratoire. Voilà. Dire aux Français, j'ai mes convictions, mais on fera un moratoire pendant toute la durée de mon mandat. Bon, ça reste à voir. Est-ce qu'on peut faire un moratoire sur les questions de société pendant 5 ans dans une société en perpétuelle évolution? Ça me paraît compliqué.
Et puis sur quelque chose qui paraît vraiment central dans son corpus idéologique.
Nicolas Sarkozy lui a dit, alors il lui a dit de façon drôlatique, en lui disant Bruno, le thé, le bouquin, le sérieux, ça va bien, il faut que tu souris un peu et puis il faut que tu t'ouvres justement. Il lui a dit de façon un peu plus sévère dans une récente interview au Figaro, où il lui dit aujourd'hui il n'est pas en phase totalement avec le fond de la société, il faudra se montrer plus ouvert. Il l'appelle à faire une révolution personnelle.
La comparaison avec Sarah Palin, qui est faite, je crois, par les conseillers d'Emmanuel Macron.
Ça, c'est les conseillers d'Emmanuel Macron qui la surnomment comme ça.
Donc, femme politique américaine, très conservatrice, anti-avortement, très sceptique sur le réchauffement climatique aussi. Est-ce que cette comparaison, elle vous paraît...
Alors, pas sur le réchauffement climatique, pour le coup, ça va paraître totalement contre-intuitif. Mais il est arrivé à Bruno Retailleau, à l'époque, il était président de région, ou en tout cas grand élu dans la région des Pays de la Loire, d'avoir des positions très écolo, et notamment sur, vous souvenez, après le naufrage de l'Erika.
Il en parle beaucoup quand on le questionne sur ses convictions écologiques.
Lui qui a inscrit dans la loi la notion de préjudice écologique quand même. C'est du Marine Tondelier dans le texte.
Bruno Retailleau échangeait ce matin à Matignon avec Sébastien Lecornu en tant que président des Républicains, mais aussi en tant que ministre de l'Intérieur démissionnaire. Est-ce que vous pensez qu'il va rester au gouvernement?
Ça se corse. D'après ce que j'en ai compris, ça se complique un petit peu. On pensait que c'était complètement acquis son maintien à Beauvau au motif que ses relations avec Sébastien Lecornu sont très bonnes. Seulement, il y a un petit problème, c'est qu'il y a un loup dans la pièce, c'est qu'il faut négocier avec le Parti Socialiste pour obtenir la non-censure. Et là, ça coince avec les Républicains qui ne veulent pas entendre parler d'une taxation des plus riches. Évidemment, ça fait partie d'une frange de leur électorat. Et les Républicains qui n'excluent pas, s'ils ne trouvaient pas de point d'accord, de sortir du gouvernement.
Bruno Retailleau ferait donc une croix sur son exposition médiatique depuis un an, ministre de l'Intérieur. Ça lui a permis de se faire connaître
des Français. Alors, je pense qu'à titre personnel, il préférerait rester, ne serait-ce parce que c'est quelqu'un qui aime faire et puis que ça lui permet d'avoir une énorme visibilité. Et c'est ça qui lui a permis d'être découvert par les Français. Après, ce ne sera pas au prix de ses convictions. On l'a dit, c'est quelqu'un qui a des convictions assez fortes. Si c'est pour se retrouver dans un gouvernement qui mène des mesures qui sont orthogonales avec ses convictions idéologiques, je pense qu'il ne le fera pas.
Vous avez parlé de son combat avec Laurent Wauquiez pour prendre la tête du Parti Les Républicains il y a quelques mois. Ce sont deux hommes qui se détestent fondamentalement, qui se combattent pied à pied, jour après jour, ou alors c'est une autre relation
C'est plus subtil que ça. Ils sont assez proches sur le plan idéologique, mais Retailleau a été déçu par Laurent Wauquiez, c'est-à-dire qu'il le trouve absolument brillant, normalien, un des plus beaux cerveaux de la République, mais il dit qu'il est toujours rattrapé par, de son point de vue, par il est surnommé le scorpion à droite, Laurent Wauquiez. On dit, c'est comme dans la fable de la grenouille du scorpion, il ne peut pas s'empêcher de piquer, y compris celui qui va le sauver. Alors, c'est plus complexe que ça, bien évidemment, mais vous vous souvenez peut-être pas de ces images. Il y a un an, Laurent Wauquiez fait sa rentrée rituelle au Mont-Mézenc. Mm-hmm. Bruno Retailleau vient et lui fait quasiment allégeance en lui disant « Voilà, on sera derrière toi si tu veux être le chef du parti, si tu veux être candidat à la présidentielle. » Et une fois que Bruno Retailleau a été nommé à l'intérieur, il a eu le sentiment que Wauquiez faisait tout pour le faire trébucher de son piédestal. Donc, entre eux, là, c'est la guerre, évidemment.
Tout cela à lire dans Le Cardinal, les combats et ambitions de Bruno Retailleau. C'est aux éditions Robert Laffont. Merci Nathalie Schuch d'avoir été notre invitée aujourd'hui, 13h46. Notre feuilleton nous emmène cette semaine au centre historique minier de Le Ward, dans le Nord. C'est le plus grand musée de la mine de France, avec 450 mètres de galeries reconstituées. Et nous explorons aujourd'hui la fosse d'Éloi, fermée en 1971. Notre reporter Sandy Dauphin y retrouve Virginie Malopesi, la directrice des archives du centre.
Donc là, on rentre dans l'ascenseur qui va nous permettre d'accéder aux galeries que l'on présente aux visiteurs ici au Centre historique minier.
Là, il faut imaginer qu'on descend dans la fosse d'Éloi.
Alors, à d'Éloi, on descendait à 480 mètres, à la profondeur la plus importante. La cage descendait à 8 mètres secondes. Donc il fallait une minute pour pouvoir atteindre la plus grande profondeur. On se trouve à l'entrée des 450 mètres de galeries reconstituées. Je suis Virginie Malepsi, directrice des archives au Centre historique minier.
L'aventure du charbon dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est une histoire de 270 ans qui débute en 1720 à Fresnes-sur-Lescot, du côté de Valenciennes, qui va se poursuivre au XVIIIe siècle et notamment à partir du milieu du XIXe siècle où on sait qu'on a besoin de charbon parce que le charbon, c'est le combustible qui permet de produire de la vapeur pour faire tourner les usines, pour faire tourner les machines. On a eu jusqu'à 250 000 mineurs en 1947, donc c'est quelque chose d'extrêmement important.
Donc là, on rentre dans un autre, une autre petite galerie.
Ouais.
Je pense que vous avez vu aussi l'évolution sur le soutènement. Oui. Plus de bois.
Claire est médiatrice culturelle et elle fait visiter à un groupe cette galerie reconstituée où on voit la vie d'un mineur dans les années 50.
En 1946, pour relancer l'économie française après la Seconde Guerre, l'État va décider de nationaliser les mines. Donc avant, ça appartenait à des compagnies privées. Ici, c'est l'État. C'est Charbonnage de France. Donc c'est pour ça qu'il y a des changements. Alors déjà, regardez la tenue de travail du mineur. Donc on a un bleu de travail, un casque avec une lampe frontale, des gants, des chaussures de sécurité. Donc c'est vrai qu'on n'est pas trop mal par rapport à ce qu'on a vu précédemment.
Imaginez ce paradoxe. Nous sommes un musée de la mine. Notre discours raconte l'histoire du premier bassin minier français, de ces centaines de milliers d'hommes et de femmes qui ont travaillé pour faire en sorte que la France soit 5e, 6e puissance mondiale et en même temps de se dire mais ce charbon avec nos yeux de 2025 c'est ce qui entraîne les conséquences terribles pour notre planète.
Parce qu'on sait que le charbon, c'est l'énergie qui émet le plus de CO2 dans l'atmosphère.
Exactement.
Enfin, la combustion.
Exactement. C'est aussi de faire comprendre à nos visiteurs que cette histoire ancienne, pour nous, dans le bassin minier Nord-Pas-de-Calais, en France, est en fait une histoire actuelle. Parce que le charbon, c'est toujours la deuxième source qui est exploitée dans le monde et la première pour produire de l'électricité. On doit continuer à raconter notre histoire et notre ADN, l'histoire minière et les 3 siècles d'exploitation et d'innovation, de technologie, de souffrance, de combat, etc. tout en injectant ce paradoxe lié aux questions du réchauffement climatique aujourd'hui.
Une semaine dans la vie du centre minier de Le Ward. Réalisation Vincent Godard, suite et fin demain.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, le jeudi à 13h50, la France à table, avec Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest. Marie-Luce, les chefs qui se lancent en politique sont de plus en plus nombreux, mais ça n'est pas vraiment nouveau.
Oui, parce qu'on dit qu'on dira plutôt que leur voix est de plus en plus audible. Parce que finalement, oui, ça fait longtemps qu'ils sont entrés dans l'arène. On se souvient notamment de cet appel au droit à bien manger pour tous les citoyens, lancé en 2017 par le chef triplement étoilé, Olivier Rollinger, au moment de l'élection présidentielle. Pour le sociologue Jean-Pierre Poulain, cette culture de la mobilisation puise ses origines au XVIIIe siècle avec l'avènement des cafés parisiens, comme le Procope. C'est là que les politiques ont fait germer la révolution. C'est dans ce contexte que les propriétaires de ces établissements, ancêtres des restaurants chics, ont appris à jouer de leur influence, dans un premier temps pour leurs intérêts catégoriels. Depuis, ce lobbying n'a jamais cessé. Il est fascinant d'observer le poids d'un étoilé dans une ville française. Sa notoriété et son pouvoir sont immenses car il incarne la culture locale, le patrimoine alimentaire.
Et c'est d'ailleurs en raison de ce point dans la vie locale qu'il donne aujourd'hui de la voix.
Exactement. Depuis les années 80, poursuit Jean-Pierre Poulain, il y a un consensus chez les chefs et celui-ci dépasse le clivage gauche-droite. Selon eux, l'agriculture intensive ne délivre pas de bons produits. Alors certes, bon, ils ne sont pas alliés aux écologistes, mais cette conviction, elle, ne les a jamais quittés. En cela, ils ont montré qu'ils avaient une belle longueur d'avance sur la société.
Alors, défendre des convictions, certes, mais ça les expose aussi à des retours de bâton.
On pense notamment à Jacques Marcon et à la tempête qu'il a essuyée suite à sa prise de position. Pour rappel, la famille Marcon a 3 étoiles à Saint-Bonnet-le-Froid en Haute-Loire. Jacques Marcon, homme habituellement discret, a donc manifesté son opposition au sénateur Duplomb, élu de son département. En boomerang, ce dernier lui a relevé le gant en fustigeant le discours, je cite, « passéiste » d'un chef qui nourrit les riches sans se soucier des besoins des plus modestes, contraint eux d'arbitrer leurs achats alimentaires. S'engager, donc, c'est aussi s'exposer. Jacques Marcon le reconnaît, il n'y était pas préparé. Il a trouvé réconfort et décryptage chez son oncle Jean-Pierre, ancien député. J'ai compris que la politique ne s'embarrasse plus de nuances. Mais cette expérience m'a convaincu d'une chose, nous dit-il. Je défendrai désormais plus activement l'agriculture et les agriculteurs. Il va d'ailleurs rejoindre l'association France Nature Environnement.
Le cuisinier est donc de plus en plus politisé.
Parce que ce débat sur l'avenir de la terre le concerne de près. Nous avons demandé son avis à Manon Fleury, chef de Datil à Paris, réputée pour sa cuisine mais aussi pour sa grande liberté d'expression. Prendre position publiquement demande parfois beaucoup de courage. Il ne faut pas oublier qu'un restaurant est aussi une entreprise. Moi, bien sûr, je suis à l'aise pour m'élever contre l'acétamipride réintroduite par M. Duplon, parce que je revendique depuis toujours mes choix. Ne travailler qu'avec des producteurs bio et des artisans qui perpétuent des savoir-faire.
Et elle a une recette à nous proposer.
Engagée, bien sûr, et elle est simple, de saison, originale, délicieuse. Vous vous faites revenir un oignon émincé dans de l'huile d'olive. Ajoutez-y 4 tomates coupées en 4 avec la peau et les graines, une gousse d'ail si ça vous chante. Ajoutez une pêche avec sa peau, on vous épargne quand même le noyau. Faites mijoter, mixer et utiliser cette sauce pour des pâtes ou une salade. Vous aurez compris, Jérôme, sa recette elle est engagée parce que sans déchets et parce que calcul fait, elle ne coûte que 3,20€.
Merci Marie-Luce Ribaud. 3,20€ par personne, hein, c'est ça?
Ah non, en tout.
En tout, 3,20€ en tout. Merci Marie-Luce Ribaud. En direct de Bordeaux, de C'est la France à C'est une chanson. C'est une comédienne qu'on retrouve aujourd'hui à votre micro, Frédéric Pommier, Victoria Monfort.
Victoria Monfort qui vit depuis quelques mois aux États-Unis où elle sera sur scène cette semaine dans la pièce qu'elle a écrite avec son mari. Son titre c'est « Moi je joue ». Et elle se jouera vendredi à San Francisco, samedi à San Diego, puis dimanche à Los Angeles. Et c'est du groupe ABBA que Victoria Monfort a souhaité me parler.
Alors ABBA, ça a marqué toute mon enfance, les voyages en voiture, des grandes vacances. Et je peux dire que c'est mon papa qui mettait le best-of de ABBA en boucle.
Votre papa Nelson Monfort.
Oui, qui est un grand fan aussi. Je peux dire aussi que je suis allée 3 fois au musée ABBA à Stockholm, donc c'est quand même vraiment quelque chose de très présent. Et c'est un groupe qui me rend heureuse, qui me fait danser, mais je ne suis pas forcément fan absolue des tubes les plus connus. Moi, ce qui m'intéresse aussi dans ce groupe, c'est des mélodies un peu moins connues, peut-être un peu plus nostalgiques, et qui ont marqué, oui, des moments de ma vie très forts.
Vous disiez que c'était un groupe qui avait accompagné notamment les voyages en voiture vers les vacances. Vous alliez où en vacances?
J'ai beaucoup de souvenirs à La Baule, à Évian, à la montagne. Vraiment, avec mes parents, on partait beaucoup à la montagne l'été. Et j'allais, moi, avec ma grande sœur, dans des camps d'été, des summer camps. Et ça accompagnait aussi ces voyages-là. Et puis, après la piscine, l'apéritif à la maison, on remettait du ABBA. Et donc, c'est des moments qui sont des flashs dans ma vie et que j'essaye aujourd'hui de retransmettre à ma jeune famille.
D'ABBA, Frédéric, s'appelle Angel Eyes. Elle est sortie en 1979.
Et elle occupe excellente année. Une place particulière, cette chanson, dans le cœur de Victoria Monfort.
J'ai appris à la jouer à la guitare et à la chanter pendant le confinement, alors que j'avais jamais fait de guitare. Une petite lubie comme chacun en a eu pendant le Covid. Je connaissais pas ce titre. C'était une des seules que je ne connaissais pas. Et je la trouve belle, extrêmement joyeuse. Et les mots, à ce moment-là, m'ont beaucoup parlé. Parce que c'est l'histoire d'une rupture. Attention à ces angel eyes that will break your heart. On est un peu dans une peur de l'abandon. Et puis, comme la vie est bien faite, j'ai rencontré mon compagnon, qui est depuis mon mari et mon partenaire sur scène. Et je l'ai forcément forcé à un moment à écouter ABBA. Et celle-ci, c'était notre chanson d'entrée à notre mariage. Angel Eyes. L'entrée à la fête, l'entrée avec tous les copains... debout, danser, c'est la première danse, etc. Donc c'est quelque chose de très symbolique pour moi.
Vous disiez cette chanson-là quand je l'ai découverte. J'étais moi-même dans une période qui faisait que je pouvais m'accrocher vraiment aux paroles. Oui. Vous veniez de rompre avec le garçon avec lequel vous étiez ?
Ah oui, oui, bah on peut le dire, hein, je venais de me faire larguer. Et du coup, j'étais prête à tout, donc notamment à prendre des chansons à la guitare pour essayer de le récupérer. Et puis un an est passé, et puis bon, j'ai un peu abandonné la guitare, mais j'ai rencontré l'amour de ma vie. Et puis les chansons qui avaient une saveur un peu amère à ce moment-là, bah, aujourd'hui, me rappellent que des moments de joie. Donc la vie est bien faite finalement.
Vous disiez que c'était votre père qui vous avait fait découvrir ce groupe-là.
Oui.
Que vous choisissiez une chanson de ce groupe pour votre mariage, ça a dû lui faire plaisir particulièrement.
Ah oui, et puis, oui, c'est un moment d'émotion, donc qu'elle soit en joie absolue ou en nostalgie, pour moi c'est une émotion qui est importante le jour où on se marie, et surtout pour un papa qui laisse partir sa fille. En plus, après, j'ai déménagé à l'autre bout du monde, donc je pense que... c'était pas évident, et du coup, oui, je lui ai fait quelques signes, je lui ai envoyé quelques signaux.
Angel Eyes, Abba, c'était donc Frédéric, le choix de Victoria Monfort.
Victoria Monfort, actuellement en tournée aux États-Unis avec sa pièce « Moi, je joue », pièce qu'elle joue avec son mari.
Merci Frédéric, et à demain, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan à suivre.